With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver et bienvenue aussi à ceux qui découvrent Nude aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux. Et si vous souhaitez réagir ou suivre les coulisses, c'est sur Instagram, @NudePodcast. Pour le lancement de cette saison 2, je vous propose le témoignage rare d'un ancien journaliste de faits divers. Guillem a couvert les plus grandes affaires de la fin des années 90 et début 2000. Il a notamment été le chef de service faits divers du journal France Soir. Alors que le fait divers n'a jamais fait vendre autant de journaux et d'émissions, vous êtes-vous déjà demandé comment ces sujets sont fabriqués ? Vous allez plonger dans les coulisses de cet univers qui passionne et fascine autant qu'il souffre d'une image sulfureuse et d'une mauvaise réputation. Vous découvrirez aussi peut-être que le fait divers recouvre plus de champs qu'on ne l'imagine parfois. Guillem a enquêté sur des crimes très médiatiques et il s'est aussi retrouvé au cœur d'événements historiques. Aujourd'hui, à 45 ans, il n'exerce plus cette profession et il a décidé de faire le bilan. Pour recueillir son témoignage, je rencontre Guillem à 6 reprises. Lorsqu'il arrive pour le premier enregistrement, il me confie. J'ai l'impression de venir chez le dentiste, c'est douloureux, mais nécessaire. Sur le moment, je n'ai pas trop compris. Ce n'est qu'au fil des entretiens que lui et moi allons réaliser jusqu'où ce témoignage l'emmène. Comme s'il avait besoin de se libérer d'une histoire trop intense, au micro de Nude, il se souvient et s'interroge sur la façon dont il a vécu ces événements. Vous l'aurez compris, le récit de Guillem s'est avéré si dense que j'ai décidé d'en faire une série. Précision, sa parole n'engage que lui. C'est pourquoi il ne citera pas certains journaux pour lesquels il a travaillé. Vous allez entendre les secrets d'un métier hors norme. Voici l'envers du fait divers. Comment devient-on fait diversier ? Oui, c'est comme ça qu'on appelle les journalistes de faits divers. À l'origine de tout, pour Guillem, il y a son père. Dès le plus jeune âge, il est ébloui par ce papa magistrat, procureur de la République.
Quand j'étais enfant, souvent les professeurs demandaient de remplir une fiche de renseignement. Et donc on te demande ton nom, ton prénom, ta couleur préférée, ta passion et ton héros. Et moi, mon héros, je répondais toujours papa. Je lui vouais une admiration, mais sans limite, quoi. Les petits garçons, souvent, ils voulaient être policiers. Enfin, moi, mon papa, c'était pas un policier, c'était un super méga policier. C'est le chef des enquêtes. Puis au-delà de ça, c'était surtout la loi. Il représentait la loi. Bon, c'était fascinant.
Plus tard, c'est un prof qui va concrétiser ta vocation, sans le savoir.
Il s'appelait Philippe. C'est mon prof principal. Il était d'origine égyptienne. Un jour, il arrive en classe et il avait le visage tuméfié. Et il nous dit « Bonjour, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours normal, je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. » Ça a été une espèce de déclic. En fait, son histoire, j'avais envie de la partager. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est ça. C'est de raconter les histoires des autres, témoigner de ce qui se passe autour de moi.
Peu après cette révélation, Guillem est poussé hors du système scolaire. Déclaré, si l'on peut dire, non conforme.
Quand j'arrête l'école, j'ai 17 ans. À ce moment-là, pour mon père, c'est une catastrophe. Pendant 2 ans, de 17 à 19 ans, je me cherche un peu, je ne fais pas grand-chose. En fait, je suis complètement perdu, mais je ne l'admets pas, je ne le reconnais pas, je suis trop fier. Et quand j'ai 19 ans, mon père m'appelle et me dit « Écoute, moi, savoir que tu passes tes journées à ne rien faire me désespère. Tu as de la chance, je t'ai dégoté un stage dans un journal, 15 jours. Vas-y, me fais pas honte. Et puis peut-être que, sait-on jamais, ça te donnera des idées. » Donc, j'y vais.
Le journal en question, c'est un hebdomadaire d'actualité nationale. Donc tu commences ton stage, mais ça se passe pas vraiment comme prévu.
Au bout de 3 jours, je me fais porter pâle parce que je me sens extrêmement mal à l'aise. Parce que je suis entouré de ce que je percevais comme des adultes hyper intelligents, hyper impressionnants. Pour te dire, quand j'arrive dans ce journal le premier jour, je tombe nez à nez avec une dame dont je voyais la photo dans le journal. Et donc, je tombe face à elle et je suis hyper impressionné. Et donc, en fait, je prends un peu peur. Et au bout de 3 jours, je me fais porter pâle. Mon père apprend ça, m'appelle, me traite de tous les noms. Donc, je prends mon courage à deux mains et j'y retourne. Et au bout de 15 jours, finalement, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien ce que je vois, j'aime bien les gens que je fréquente. Les gens sont très gentils avec moi. Peut-être aussi parce que je suis le fils d'eux, mais en tout état de cause, ils sont très sympas avec moi. Et donc, je vais voir le rédacteur en chef. C'est la première fois que je rentre dans son bureau. Et quand je rentre dans son bureau, je découvre un tas de journaux, mais qui montent jusqu'au plafond. Des cadavres de bouteilles de whisky. Des tasses de café desséchées depuis... J'ai l'impression qu'elles sont là depuis des siècles. Enfin, l'image totalement cliché du journaliste de l'ancienne génération. Mais fascinant. Cet homme fumait le cigare, donc en plus, il y avait une odeur de tabac froid. Enfin, c'était hallucinant. C'était Orson Welles, quoi. Et donc, je vais le voir et je dis « Bonjour, est-ce que, éventuellement, vous pourriez prolonger mon stage de 15 jours ?» Et à ce moment-là, il dresse les yeux et il fait « Ok, va pour 15 jours de plus. »
15 jours de plus qui se transformeront en plusieurs mois. Le stagiaire commence à écrire des brèves, puis se voit confier des articles. Alors qu'il fait ses premiers pas, il est loin d'imaginer la voie que va prendre son destin de journaliste. Durant l'été 1995, Guillaume est à la rédaction lorsqu'une bombe explose dans une rame de RER à la station Saint-Michel à Paris.
À cette époque-là, mon père est à la section antiterroriste. Leurs bureaux sont situés sur l'île de la Cité à Paris, c'est-à-dire à 500 mètres de la station Saint-Michel. Tout de suite, il part avec ses collègues et avant de s'engouffrer sous terre, il m'appelle. Et il me dit « Rejoins-moi tout de suite, il faut vraiment que tu me rejoignes tout de suite. » Je pars le rejoindre et je me retrouve avec mon père à Saint-Michel après que la bombe ait explosé. Il me fait passer les barrages de sécurité. Nous descendons ensemble les marches de la bouche du RER. Et là, j'ai vu l'indicible.
On saura très vite qu'il s'agit d'un attentat. Le bilan s'élèvera à 8 morts et plus de 100 blessés. Alors que l'explosion vient de se produire, Guillaume assiste à une scène de guerre.
Des pompiers qui s'affairent partout, des brancards, beaucoup de sang, et je devine des corps dans la rame, et je vois beaucoup de personnes blessées, ça court dans tous les sens, une odeur de brûlé, terrible, et puis des cris de pompiers. « Dépêchez-vous, vite par ici, il nous manque ça, c'est le chaos. » C'est d'une violence telle que j'ai l'impression d'avoir une espèce d'état cotonneux, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression d'avoir une espèce de bulle autour de moi, un peu comme quand tu mets les mains sur les oreilles ou que tu as la tête sous l'eau, voilà. C'est un peu ça, la tête sous l'eau et les bruits que tu peux entendre quand tu as la tête à 30 cm sous l'eau. Tu distingues des cris autour de toi, mais tu ne sais pas trop qui dit quoi, c'est ça, c'est vraiment la tête sous l'eau, 30 cm sous l'eau. Et à un moment donné, je croise le regard de mon père et je vois à travers ses yeux, que lui-même se demande pourquoi il a fait ça.
Pourquoi il t'a emmené avec lui ? Est-ce que t'en as reparlé, du coup, avec ton père ?
Jamais. Jamais. Je pense qu'il a regretté toute sa vie d'avoir fait ça. Mon père, qui a toujours voulu que son fils réussisse dans la vie, a sans doute pensé à ce moment-là que m'emmener avec lui était bien. Je pouvais accéder à ce qu'aucun autre journaliste ne pouvait voir. Il voulait me donner un coup de pouce. Sans doute, dans l'excitation, il s'est dit « Ah, mon fils, il débute une carrière de journaliste. Ah, je vais lui donner la possibilité d'avoir un truc, un scoop. » Il disait toujours ça, un scoop. Mais je pense que s'il avait été conscient de ce que c'était de la scène, jamais il m'aurait fait descendre avec lui. Je lui en veux évidemment pas. Ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait en bas. Évidemment, ils ont été appelés, on leur a dit qu'il y avait eu un attentat, qu'il y avait des morts. Mais entre ce qu'on te dit au téléphone et ce que tu vois de tes propres yeux, c'est pas la même chose. Cet instant m'a permis de comprendre que j'étais capable d'ouvrir un petit tiroir dans mon cerveau, de ranger ce que je voyais, pas de l'oublier, mais de le gérer, de le supporter. Pour moi, c'est un véritable déclencheur. Je sais que je suis fait pour ce métier. Je sais que je vais pouvoir affronter la souffrance des uns et des autres pour pouvoir faire mon métier. Je suis en mesure de supporter ça, de survivre après ça.
Après ça, tu décroches un contrat de qualification au sein du journal et tu es envoyé sur tes premiers reportages, des manifs, des faits d'actualité et déjà des affaires criminelles.
À cette époque, pendant que mes amis, la plupart sont en école de commerce, pourquoi je ne sais pas, mais c'est un fait, ils apprennent les fondements de l'économie et moi j'apprends les détournements de fonds.
À ce moment-là, tu as tout juste 20 ans. Comment t'es perçu par les gens que tu vas interviewer ?
En fait, les gens, lorsqu'ils s'attendent à voir débarquer des journalistes, c'est un peu l'image du baroudeur avec pas bien rasé, la veste multipoche avec les pellicules photo, les calepins, les crayons, les machins, le téléphone portable, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand ils me voient débarquer, moi, qui à l'époque n'ai pas beaucoup de barbe, un peu plus de cheveux, et puis surtout avec ma tête de bébé, ça les surprend un peu. Et donc, entre une meute de journalistes avec des caméras, des lumières, des micros tendus, et un petit jeuneau qui débarque avec une petite tête innocente, tout gentil, tout mignon, c'est peut-être plus rassurant, c'est peut-être plus facile de parler, de se confier. Donc la jeunesse est plutôt un atout.
Et par rapport à tes amis, donc il y a un contraste, comment ça se passe ?
Tous me connaissent depuis très longtemps, donc tous ont vécu mon échec, c'est un grand mot, mais bon, mon départ de l'école, du système scolaire, et donc de me voir m'installer petit à petit au sein d'une rédaction, en plus reconnue, ça leur fait super plaisir. À cette époque, je suis très très ami avec un garçon, et je le connais depuis mes 14 ans, et son père, j'étais un peu considéré aux yeux de son père comme... le bon à rien. Il y a toujours dans l'entourage, pour les parents, un copain qui n'est pas bon à fréquenter. Quoi. Bon, bah moi, pour ce monsieur, j'étais ce jeune homme-là, celui qu'il ne fallait pas fréquenter. Sauf qu'il s'avère qu'il était un fidèle lecteur du journal et qu'un jour, il a vu ma signature. Et là, ce qui est très amusant, c'est que le regard qu'il portait sur moi a totalement changé.
Et ton père, à toi, son regard, il évolue aussi ?
Évidemment, quand il commence à lire ma signature dans le journal, il est extrêmement fier. Il me le dira à sa manière. Au-delà d'avoir trouvé ma voie et de travailler dans un domaine qui me plaît vraiment beaucoup, j'ai aussi le sentiment de prouver à mes proches, à ceux qui m'aiment, que s'ils se sont inquiétés pour moi pendant un moment, aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'ils s'inquiètent pour moi.
Dans les soirées aussi, tu es un peu l'attraction ?
Quand je pouvais y aller, oui.
Et les filles alors ? Tu m'as dit aussi, gros succès. Tu m'as dit, les filles étaient comme des dingues.
Non, mais il ne faut pas...
Ça faisait son petit effet.
Ça me donnait un point d'intérêt. Il y a un côté un peu... bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Patricia. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patricia ? J'ai 20 ans, je débute ma faculté d'histoire. Et toi ? Moi, bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 20 ans, je suis journaliste. Ah bon ? Il y avait ce côté un peu hors norme. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'était pas banal quand même comme parcours. Après toutes les années que j'avais passées à être un peu en retrait de l'évolution dite classique de mes petits camarades, tout d'un coup, je prenais un peu la lumière. Donc, sans en rajouter des tonnes, c'est vrai que c'était un moment où je me sentais revivre.
Un an après l'attentat de la station Saint-Michel, Guillaume se retrouve au cœur d'une autre catastrophe, un autre drame historique. Le 17 juillet 1996, le vol TWA-800 disparaît en mer au large de New York, avec à son bord 230 passagers, dont 42 Français. Guillaume, comme des journalistes de toutes les rédactions, sont envoyés à Roissy-Charles de Gaulle, où l'avion devait faire escale.
Quand j'arrive sur place, il y a une agitation, il y a une effervescence folle. Ça va dans tous les sens, il y a des caméras partout, ça vient de tous les côtés. Il y a quand même un avion qui vient de disparaître. Quand un avion n'est plus visible sur les radars pendant plus de 10 minutes, généralement, malheureusement, on ne le retrouve jamais. Ou alors on retrouve les débris au fond de l'océan, ce qui a été le cas avec celui-là.
Sur place, à l'aéroport, une cellule de crise a été mise en place, pour les journalistes notamment. Il y a aussi une pièce fermée qui est réservée aux familles des passagers.
J'arrive devant cette pièce et je profite du chaos qui règne pour rentrer à l'intérieur. Je profite de l'agitation pour rentrer à l'intérieur en laissant clairement sous-entendre aux gens qui m'entourent que je suis le fils d'un homme qui était à bord de l'avion, ce qui évidemment n'est absolument pas vrai. La question m'est posée à plusieurs reprises et je laisse clairement sous-entendre qu'effectivement je suis moi-même victime, puisque mon père imaginaire se trouvait à bord de l'avion.
Comment t'expliques que t'aies eu l'idée d'un mensonge pareil ?
Moi, ce qui m'excitait dans ce métier, mais vraiment, c'était aller au bout du bout du bout du bout pour avoir le témoignage, la déclaration, l'info que je cherchais. Pour replacer les choses dans leur contexte, il faut savoir que moi, j'ai été formé par les derniers des Mohicans, c'est-à-dire les journalistes qui m'ont formé, c'est des gens qui, à l'époque où moi j'avais 20 ans, on avait 60, ils avaient donc vécu l'âge d'or du journalisme. Il n'y avait pas Internet, il y avait eux, pour avoir des infos, ils faisaient tout, quoi. J'ai des photographes avec qui je travaillais qui me racontaient qu'ils allaient jusqu'à se planquer dans les placards du 36 Quai des Orfèvres pour entendre ce qu'ils se disaient. C'était des filous, c'était un autre monde, quoi. Et donc, comme j'avais été formé, entre guillemets, comme ça, pour moi, c'était normal. Le fait d'être entré me met dans tous mes états. Je suis là où les autres ne sont pas. C'est terrible, mais j'en tire une réelle satisfaction. Parce que j'ai l'impression d'avoir réussi à accéder à quelque chose auquel je n'aurais pas dû avoir accès normalement. Très rapidement, je suis repéré, parce qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Donc je suis mis dehors manu militari. Une fois dehors, il y a un truc qui me dérange, mais vraiment profondément. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Guillaume se sent mal d'être entré dans cette pièce réservée aux familles. Mais sur le moment, il ne met pas de mots sur cette sensation. Ce n'est que lorsqu'il rentre à la rédaction et écrit son article qu'il comprend.
Je réalise à quel point tout ça a été complètement inutile. Le fait d'avoir pu accéder à cet endroit, finalement, concrètement, ça ne m'apporte rien. Ça a apporté que dalle à la rédaction de l'article après. De dire que les gens sont sous le coup de l'émotion, t'as pas besoin de rentrer pour le savoir. Et puis, très honnêtement, si jamais j'avais pu parler avec quelqu'un, qu'est-ce que je lui aurais demandé ? Si j'avais eu la possibilité de poser des questions, je me serais senti très très idiot. En fait, lorsque je rentre dans cette salle, je tombe face à plusieurs groupes de personnes qui se prennent dans les bras les unes des autres. Beaucoup d'attentes, beaucoup de peurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de silence aussi, parce que à ce moment précis, l'avion est déclaré disparu depuis peut-être 6 heures, 7 heures. Évidemment, l'issue est certaine, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il y a de l'espoir. Et je me mets à la place des familles, il y a évidemment l'infime espoir que tout ça ne soit qu'un mauvais cauchemar, un mauvais rêve. Ce jour-là, j'ai compris la différence entre le journalisme et le voyeurisme. Et c'est pas du tout la même chose. Rentrer dans cette cellule à ce moment-là, c'était pas du journalisme, j'ai été un voyeur. Ce jour-là, j'ai franchi la ligne jaune, et cette ligne, elle est impossible à franchir. Mon métier ne me l'autorise pas. Et moi, j'ai découvert ces limites, un peu par hasard, un peu par bêtise, un peu par orgueil. Ce qui compte, c'est que je l'ai découvert. Ce qui va finalement faire qu'un fait diversier sera meilleur qu'un autre ou qu'une autre, c'est d'être en capacité de s'approcher le plus près de la ligne à ne pas dépasser pour obtenir le maximum d'informations, en prenant bien soin de ne jamais dépasser cette ligne. Et là, la comparaison est sans doute très hasardeuse, mais c'est un peu comme le fumeur de crack. On dit souvent qu'un fumeur de crack, lorsqu'il fume pour la première fois, il ressent un truc de dingue. Bah, c'est exactement la même chose. Une espèce de... Oh, cette sensation... incroyable.
La suite dans l'épisode 2 à suivre.